Revue de presse de l'avril, semaine 40, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, semaine 40, le sommaire.
Et oui, un sommaire classique. On doit avoir 7 articles, mais pas mal d'autres loin. Donc, on va vous parler aujourd'hui de libre et développement. Le libre, pour le coup, c'est au Québec, encore une fois. L'Open World Forum, des questions qui sont posées à un certain Daniel Pascoe. Les DRM au W3C, ça fait mal au cœur. Les patrons de trolls. Et pour finir, on reparle encore une fois des ministères et du logiciel libre.
Cubic, le logiciel libre, a fait de moi l'homme que je suis, un article de Matteo Spinelli, c'est une traduction du Framablog.
Et oui, on aime bien, hein, ils reprennent des bons articles, les bonnes pages sur le net, ils les traduisent pour nous, et comme ça on peut les avoir en bon français.
Donc là, c'est un développeur qui était un ancien développeur PHP, et qui faisait du code
propriétaire, hein.
Voilà. Et puis un jour il a eu l'illumination, il s'est dit tiens, j'ai envie de faire des choses libres, donc il a mis son code sous licence MIT. Il a bien aimé, parce que justement il y avait un peu un esprit de compétition, mais dans la version positive des choses. Tout le monde venait voir son code, lui proposait, bah tiens, faut mieux faire ça comme ça, comme ça, l'améliorer. Et donc, il a découvert vraiment un autre monde beaucoup plus ouvert, c'est le cas de le dire, qui a vraiment apprécié. Et il a dit qu'il avait jamais autant appris sur le JavaScript, par exemple, que via les commentaires ou les rapports de bugs que certains lui avaient remonté.
Voilà, et c'est également les contributions qu'il a pu faire sur le code d'autres personnes. Il explique donc qu'il est un indépendant. Et qu'au final, il a fait considérablement augmenter ses revenus parce que ses compétences aujourd'hui sont beaucoup plus reconnues. Et le fait qu'il ait contribué à des logiciels fait qu'il s'est fait une notoriété et qu'il arrive aujourd'hui à gagner sa vie bien mieux et en faisant des trucs qui l'intéressent beaucoup plus.
Donc une histoire de conversion qui marche bien. Ça se termine même par une conclusion où il parle de son code et de son code qui a été repris par d'autres, qui l'ont monétisé, qui en ont fait de l'argent. Eh bien, il leur en veut pas. Donc,
Il est même content pour eux.
Il est même plutôt content pour eux. Et de toute façon, lui, il est connu et reconnu pour ce qu'il fait. Donc en fin de compte...
Un article que je trouve rare, on n'en a jamais des comme ça.
Non.
Ça montre pourquoi un développeur peut se mettre à faire du logiciel libre. C'est souvent la question des gens qui ne connaissent pas du tout, qui disent mais on ne peut pas faire d'argent avec, mais pourquoi donner son code et tout ça. Et là, on a vraiment une vision de l'intérieur et le côté très motivant et très exaltant qu'il peut y avoir à ça et qui reste un métier avec quelqu'un qui gagne de l'argent. Donc, un article à lire. Wired, pourquoi le logiciel libre est plus important que jamais. Un article de Richard Stallman, traduit toujours par Framalang.
Eh oui, donc je me trompais, ça n'a rien à voir avec le Québec. Non, on parle des 30 ans encore une fois, mais c'est la version de Stallman directement, voilà, traduite.
Traduite, donc c'était dans Wired Magazine, une interview qu'il avait donnée. Et donc il est revenu sur les 30 ans de GNU avec pourquoi aujourd'hui c'est super important de faire du logiciel libre, pourquoi dans le monde aujourd'hui avec tous les problèmes type NSA, Apple, Microsoft et autres, ça devient super important de promouvoir ce genre de logiciel.
Et d'ailleurs, c'est ce que j'en remarque moi, c'est que quand il part de logiciel privateur, hein, donc il se défend et il nous propose aussi d'éviter d'aller dans ce chemin-là, mais à chaque fois il l'ajoute et rajoute derrière attention aussi aux logiciels vendus comme des services, qui sont utilisés comme des services. Le fameux SaaS, Software as a Service. Parce que quand on utilise soit du privateur, soit du SaaS, du Software as a Service, eh bien dans les deux cas, on perd notre liberté, on est à la merci de celui qui vous le fournit. Quand on vous fournit du logiciel privateur, on est à sa merci. Quand on vous fournit un logiciel comme un service, eh bien on est aussi à sa merci.
Après, quelque chose que Stallman critique aussi, c'est les dangers des logiciels privateurs qui sont gratuits. C'est le cas, par exemple, de Adobe. La suite Adobe est gratuite, et enfin Adobe PDF, Adobe Reader. On peut la télécharger, l'utiliser, elle a envahi tous les PC, alors que pourtant elle est complètement privatrice, et demain il peut y avoir des nouvelles fonctionnalités.
C'est un très très mauvais logiciel, c'est-à-dire que même, enfin, dans le lecteur PDF, ce qui est dingue, hein, parce qu'il est proposé sur tous les sites internet, et c'est un machin, quand on le télécharge pour Windows, ça doit faire genre
120 mégas, quelque chose comme ça.
Aujourd'hui, j'ai réinstallé un lecteur PDF libre.
20K.
Voilà, non, pas 20K le mien, mais ouais, il fait quelques mégas, il démarre très très vite.
Petite parenthèse, Adobe vient de se faire hacker et 3 millions de comptes utilisateurs sont partis dans la nature, hein, des
bon, ils étaient
des hackers.
Chiffrés quand même.
Je suis pas sûr si les numéros de carte de crédit notamment étaient pas.
Ils étaient chiffrés, mais on sait que ça peut être cassé.
Ça peut se casser, ouais.
Et après, c'est toujours embêtant de voir que cette fiabilité, elle est pas nécessairement là, hein, sachant que Adobe est passé sur justement du service, notamment pour Photoshop, qui est son principal, c'est un peu sa vache à lait, et qui pour le coup n'est pas gratuite du tout. Et c'était pour eux un moyen de bien contrôler leurs utilisateurs et d'être sûr de les faire payer régulièrement. Et voilà, donc on donne ces données, etc., à Adobe et peuvent se barrer dans la nature. Donc, pour l'anecdote, il y a un petit truc rigolo que cite l'article, c'est que Richard Stallman a changé sa mise en page de mail. Tous ses mails, désormais, commencent par ce petit paragraphe. À l'attention des agents de la NSA ou du FBI qui liraient ce courriel, veuillez envisager l'idée que la défense de la Constitution des États-Unis contre tous ses ennemis étrangers ou nationaux nécessite que vous suiviez l'exemple de Snowden. Journal du Net, Open Serious Summit, l'open source, un levier d'innovation, un article d'Antoine Crochet-Damet. Donc c'était une des réunions qui s'est déroulée ce week-end à l'Open World Forum.
On dirait presque une réunion secrète. Hein,
C'était assez secret puisque le Journal du Net a pu y participer, mais sous condition d'anonymiser tous les présents. Donc on n'a pas de nom et apparemment il y avait quand même des grosses entreprises. Mais malheureusement, on n'a pas de nom à citer pour cette réunion.
Donc CIO, Chief Information Officer, donc en gros les directeurs informatiques hein, de plein de grosses boîtes. Et donc ils ont discuté entre eux de manière officieuse. Et bah, ils ont parlé de libre, ils ont parlé de cloud computing. Et oui, parce que, bah oui.
Ils ont une approche complètement business, donc c'est très intéressant pour eux.
Alors, pas forcément comme service, comme logiciel à sa service. Hein, c'est aussi, il y a aussi d'autres notions qui sont derrière ça.
Mais... tout à fait. Après, il faut bien admettre que ça pose un vrai problème de liberté, mais que c'est quand même super pratique. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, on comprend qu'ils puissent, eux, complètement centrer toute leur activité là-dessus.
Et on remarquera que justement, il se base en grande partie sur du libre et il parle de libre pour innover, il parle de libre pour faire des thèses d'époque, hein, proof of concept, et que justement ça leur permet de se lancer sans trop se poser de questions. On n'est pas obligé de demander la permission.
Puis déjà on n'est pas obligé de demander la permission, en plus ça coûte pas cher parce que si on veut juste faire un test, on n'a pas de licence à acheter, donc on peut se lancer directement dedans. Et puis ils disent bien, quand on commence à développer des choses, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, et puis ils peuvent recontribuer derrière en distribuant ce qu'ils ont amélioré. La partie qu'ils ont fait sur les API, c'est donc les API, pour ceux qui sont pas techniques, c'est ce qui permet de contrôler un logiciel à distance. Ça revient au problème que Stallman soulève, c'est que généralement on peut faire du logiciel libre, enfin utiliser du logiciel libre, mais avoir des API qui sont juste mises à disposition et donc on ne contrôle pas le logiciel qu'il y a derrière au final. Quoi.
Voilà, un autre élément qui est intéressant dans cet article-là, c'est qu'ils disent qu'en faisant du libre et en contribuant au logiciel qu'ils utilisent, ça améliore leur réputation et que du coup ils attirent des bons salariés, enfin des gens qui ont des bons niveaux, qui ont envie d'aller bosser chez eux parce que y a plein d'informaticiens talentueux qui sont des libristes et quand ils voient une boîte faite du libre, ils vont plus volontiers travailler pour elle. Et ça, c'est un des éléments positifs qui n'est pas directement lié au business et qui est quand même intéressant.
Oui, c'est carrément un cercle vertueux, donc voilà. Bravo.
Le fil, trois questions à Daniel Pascoe, une interview de Pascal Guéricola.
Donc c'est un nouveau site que je connaissais pas tellement.
Oui, c'est le Québec. Daniel Pascoe, on en a entendu parler ces derniers temps. Le gouvernement du Québec a voté à l'unanimité une motion qui donne la faveur au logiciel libre dans les services publics.
Bah donc la première question qui est posée, c'est en gros, qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours, l'adoption de cette charte dans l'administration publique. Donc ça va changer vraiment beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'ils revoient déjà en profondeur leur système d'appel d'offres, puisque maintenant, il va falloir qu'ils mettent en avant le logiciel libre et plus uniquement faire des demandes en disant je veux du Microsoft ou du telle suite. Donc ça demande beaucoup beaucoup de travail à ce niveau-là. Après, la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place du logiciel libre simplement dans la vie courante. Encore une fois, ça passe aussi par les marchés et les appels d'offres. Donc
là-dessus, c'est pas nécessairement très différent.
C'est pas très différent
de n'importe quel autre logiciel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'article, il prend pas mal d'exemples de ce qui se passe en France.
Ouais.
Oui, c'est une bonne référence. Il y a quelque chose que je trouve assez bien et réaliste, c'est qu'ils disent pas, on va être exportateur de logiciels libres et on va en profiter pour devenir une puissance exportatrice pour le reste du monde. Non.
Il y a cette formule en disant que vouloir exporter des biens communs, ça n'a absolument aucun sens.
Voilà, mais par contre, on peut contribuer nous-mêmes à nos propres compétences et en améliorant nos compétences, on améliore quand même pas mal de choses.
En travaillant les entreprises locales, puisque c'est un des intérêts du logiciel libre. Comme tout le monde peut mettre les doigts dans le code, on n'est pas obligé d'aller acheter à une société étrangère des logiciels tout entiers, payer des licences avec les montages boiteux qu'on connaît, avec des...
Vive
des
le passage par l'Irlande.
Voilà, par l'Irlande. Qui vendent depuis l'Irlande, etc., pour éviter la fiscalité. On peut financer des entreprises locales, petites ou grandes, et du coup, dans la position d'une collectivité, c'est intéressant, puisque l'argent des impôts va rester dans le circuit économique.
Voilà, ils gardent leur souveraineté, ils contrôlent vraiment leur logiciel, ils sont plus à la merci d'une puissance étrangère, donc c'est vraiment des points qui sont aujourd'hui très intéressants, surtout quand on voit le contexte actuel avec la NSA ou autre. Le passage au libre, ça peut vraiment être une bonne manière de se débarrasser des pratiques anciennes qui empoisonnent la vie de tous les jours dans l'administration.
PC Impact, l'EFF fustige le W3C pour l'acceptation des DRM dans la nouvelle charte. Un article de Vincent Herman. Donc on en a parlé, mais ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas évoqué.
Quelques mois même. Hein.
Oui.
Et puis bah là, c'est malheureusement fait, le W3C.
Ça va être discuté officiellement.
Ça va être discuté officiellement, mais voilà. Bon, apparemment, c'est quand même bien sur les rails. Donc,
L'idée quand même, il faut qu'on le rappelle, puisqu'on n'a pas expliqué ça, c'est d'intégrer les DRM directement dans HTML5. HTML5, c'est le langage qui, en gros, permet de faire les pages sur lesquelles on peut naviguer. Les DRM, on en parle très régulièrement.
Les menottes numériques,
voilà,
on va dire.
Ces systèmes qui vont verrouiller l'utilisation des fichiers ou l'utilisation d'un logiciel.
En gros, on perd le contrôle de son propre ordinateur et c'est souvent une entreprise qui va pouvoir faire voilà. Ce qu'elle veut.
Et donc là, l'idée, c'est d'intégrer ces systèmes assez nosabonds directement dans le code d'Internet, qui jusqu'à maintenant était ouvert. Hein. On peut, même si on n'a pas les compétences pour le comprendre, on peut toujours voir comment un logiciel est construit. On peut voir le code source.
Une page web.
On peut voir le code source et savoir exactement comment elle est construite. À partir du moment où on veut contrôler, on est obligé d'avoir un système opaque, fermé.
Le W3C se défend un peu là-dessus en disant que c'est un peu une histoire de consensus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des grosses boîtes américaines. L'exemple qui est cité, c'est Netflix, le distributeur de contenu américain.
Oui, des vidéos.
Des vidéos et de choses comme ça. Et qu'ils ne voudront pas proposer des offres légales s'il n'y a pas ce genre de DRM dans les navigateurs. Et donc, c'est un peu soit on accepte les DRM dans HTML5, soit on retourne à des vieilles technologies privatrices comme Silverlight ou Flash. C'est plutôt malsain. Hein.
Ouais. C'est assez rageant parce que le W3C est justement connu pour standardiser des bonnes technologies très ouvertes. Et là, Tim Berners-Lee, son dirigeant et un des créateurs du net, du web, c'est lui-même qui présente cette inclusion des DRM. Et donc, on est un peu déçus parce que c'est un grand homme, un lord et tout. Il a reçu pas mal de titres et là, il aura le titre d'avoir rajouté les DRM dans le web. C'est rageant.
PC Impact, le patent troll Lot 6, plie finalement les chines face à Kaspersky, un article de Vincent Herman.
Donc on en a déjà parlé pas mal, on en reparle encore cette semaine, mais avec un autre point de vue. Ce coup-ci, les patents trolls viennent de se prendre une baffe.
Alors on rappelle que les patents trolls, on en a parlé la semaine dernière, puisqu'il y avait un groupe de grosses entreprises internationales, essentiellement américaines, qui demandaient à l'Europe de faire un petit peu attention, parce qu'avec le brevet unitaire, on risquait de leur laisser la porte ouverte en Europe. Ils en ont pas mal souffert, et donc là, Lot 6, c'est une boîte, un vrai patent troll américain.
Avec plein d'avocats dedans.
Voilà, et qui a réussi à extorquer pas mal d'argent.
Et puis là, ils se prennent quand même un retour de bâton, parce que d'habitude, donc, l'objectif des patent trolls, c'est de menacer de porter plainte, et que les entreprises préfèrent payer plutôt que d'aller jusqu'au procès.
Parce que ça leur coûte moins cher.
Parce que ça coûte moins cher, et donc en fait, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, ils essayent de mettre le curseur de manière suffisamment élevée pour être rentable, mais pas trop pour pas que les entreprises aient envie d'aller jusqu'au procès pour pas avoir à payer. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a une société, donc Kaspersky, qui a refusé en fait de payer, qui a préféré aller jusqu'au procès. Et là, le CIS s'est rendu compte que ils allaient devoir beaucoup payer parce que ça allait avoir des frais d'avocat, des frais de procédure et autres. Et donc, ils ont préféré arrêter le procès, arrêter la procédure. Et donc, ça risque de leur coûter très cher parce que aujourd'hui, c'est aussi un signal aux autres entreprises. Arrêtez de payer parce que le jour où vous allez en procès, l'autre 6 s'arrêtera avant. Et en plus de ça, Kaspersky a réussi à avoir une ordonnance du juge qui, en gros, interdit l'autre 6 de les poursuivre pour jusqu'à la fin des temps sur ce sujet-là.
En disant que puisqu'ils ont abandonné la procédure, voilà, ils ne pourront pas revenir à la charge. Également, chacun paye ses frais d'avocat. Donc, l'autre 6 en est pour sa poche.
Donc voilà, ça fait un bon coup de bâton pour les patent trolls. Comme quoi, il y a des armes et il y a moyen de ne pas se laisser faire par ce genre de boîte. Donc faut pas hésiter à ne pas payer et à aller jusqu'au procès.
Donc on rappelle, ça c'est aux États-Unis, c'est pas en Europe pour l'instant.
ZDNet, au ministère des Affaires Sociales, généralisation progressive des logiciels libres, un article de Thierry Noisette.
Oui, Rebelote, c'était un peu le feuilleton de l'été. Les ministères, une députée leur a posé la question de combien vous coûtent vos logiciels, les logiciels propriétaires, privateurs surtout. Et ils se sont dévoilés tous les uns après les autres. On a eu pas mal de nouvelles là-dessus. C'est les affaires sociales qui parlent. Et puis, à travers eux, on voit un petit peu toutes les évolutions des ministères et du libre.
On n'apprend pas grand-chose de nouveau. Enfin, c'est un petit peu un programme de déploiement qui dit que ça va être progressif, qu'ils ont commencé, qu'ils vont continuer à en déployer.
Mais c'est déjà pas mal, parce qu'on ne l'avait pas vraiment, cette info.
C'est quand même les plus volontaristes dans l'affaire, parce que tous les autres ministères qui ont répondu, c'est plus, ils ont donné des chiffres en disant, on est plus un peu passif, on subit, voilà ce qu'on utilise, mais sans plus.
Et ils ont parlé du passé et du présent.
Du passé et du présent, et eux, là, ils parlent vraiment du futur, avec un engagement entre 4 et 6 ans pour tout migrer au passage au libre d'ici là. Donc, beaucoup plus volontaristes et motivés que les autres ministères qui étaient beaucoup plus passifs et qui subissaient presque le privateur qu'autre chose.
Moi, j'ai des informations de première main.
Ouais, tu fais partie du CA, c'est pour ça.
Non. J'ai discuté avec un membre de l'April qui travaille dans une des branches, multiples branches de ce ministère, et qui disait qu'il n'était pas du tout convaincu par cette idée de passage progressif au libre. Et il m'expliquait également que, en tant qu'informaticien, puisqu'il travaillait dans les services informatiques, il avait reçu une lettre, donc des consignes pour mettre du logiciel libre, mais qui émanait directement du Premier ministre et pas de son ministère directement. Donc, moi, je suis curieux de voir comment ça se passe vraiment sur le terrain.
Savoir qui c'est qui est vraiment moteur là-dedans, en fait.
Bon, bah, on va dire que si ça vient du haut, ça peut que bien se passer. Après tout, on est en France et c'est comme ça souvent que ça avance, malheureusement.
On a fait le tour. Merci à vous deux.
Et puis à la semaine prochaine.
Et bah pas pour moi, je pars en vacances, donc vous débrouillerez sans moi.
Voilà.
Feignant.